Inter Actualité Magazine. Inter Actualité Magazine, émission d'Haïti Inter. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. 16 juillet 1976, Sodo, ville bonheur. Sodo, ville mystère. Sodo, ville misère. Est-ce ville bonheur qui a changé cette année? Il a plu et le parvis de l'église était envahi de boue. Est-ce mon regard qui s'est blasé et a décapé la patine du merveilleux sur la masse informe du retour au folklore? Il m'a semblé cette année que la saveur de cette ville envahie pendant 8 jours par les 50 000 pèlerins, mais était-il 50 000? Que la saveur de cette ville n'était plus faite de cette âpreté, de cette rudesse, de cette foi sauvage et obsédante que j'avais connue il y a 2 ans. Alors je témoignais sur Sodo, ville bonheur, Sodo, ville mystère, Sodo, ville misère. Cinquante mille pèlerins avais-je grossièrement dénombré alors? La quantité a-t-elle diminué? Ou sont seulement les véhicules dont le nombre a baissé? Tandis que le parvis de l'église grouille comme avant de ce monde de boiteux, d'éclopés, de mendiants, de pustuleux, de bancals, de difformes qui vous assaillent parmi les pèlerins en habit de pénitent ou les touristes venus pour le plaisir, curieux, tandis que les autres, attirés par la nécessité, venus pour implorer, poussent au ciel leurs plaintes et hurlent leurs prières. J'avais fait la statistique à l'époque, vous rappelez-vous? 400 camions pendant 15 jours, des dizaines de kilomètres de cordelières bleues, mauves, jaunes, rouges, des milliers de porcs pour la grillade, des milliers de gallons de clairin et de rhum, des tonnes de poussière avalée, nuit et jour, des lourds nuages pestilentiels d'excréments humains, de bouses de vache, de crottins de cheval, de purins de porc, des centaines de chaudières à même la terre, cuisinant des centaines de milliers d'acras, de marinades, de bananes pesées, de patates frites, des rues entières en fumée de cierges, de chandelles, de bougies suiffées. Et la rumeur têtue de l'eau dans le canal, charriant les déchets de la ville. L'eau où se lave et s'abreuve hommes, femmes, enfants, montures, voitures, camions. Une eau cristalline et généreuse pourtant, malgré les vicissitudes de son parcours, chantant dans ce tohu-bohu de 8 jours, d'une fête dérisoire, la misère et les faux espoirs de l'homme, la tragédie et la terreur d'un peuple éveillé, les yeux ouverts, grands ouverts. Cette marée humaine, cette cacophonie de cris et lamentations, ce va-et-vient incessant dans la pétarade des camions, ces larmes coulant d'un visage peinturluré par le maquillage sacré, ces chants de joie au passage de la Vierge le jour de la fête, ces hurlements d'amplificateurs aux accents de méringue ou de compas directs, ces dés qui roulent sur les tables de jeu à portée de voix du tabernacle. C'est tout cela. Sodo, et plus encore, ville bonheur, ville mystère, ville misère. Était-ce l'effet de la pluie qui avait refroidi l'atmosphère cette année, embourbé le parvis ces jours derniers? Était-ce la conséquence d'une neuve mesure de protection d'un neuf curé, un jeune curé ne connaissant pas les usages ou la tradition? Était-ce cet ordre de fermer très tôt l'accès des fidèles à l'église? J'ai cru sentir, en 1976, de la tiédeur dans ces supplications d'une foule s'accrochant désespérément à la Vierge comme à leur seul espoir. Des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes se logeant n'importe où, sous les arbres, dans la rue, sous les tonnelles, sur le parvis de l'église, dans les cours, dans les camions, sous les galeries. Des dizaines de milliers de personnes parquées ainsi, n'importe comment. Pas d'épidémie, pas de dysenterie, pas de cholérine, pas d'autres maladies. Les gens buvant l'eau du canal où tout va, détritus, épluchures, déchets et même excréments, rien ne se passe. Comment se nourrit tout ce monde? Comment n'y a-t-il pas plus d'enfants morts, plus de collisions dans les rues surchargées, de vieillards étouffés dans la foule, de maisons effondrées sous le poids des hommes, des choses et des bêtes, de camions chavirant dans l'abîme? Sodoville miracle, miracle de l'inorganisation, de l'anarchie. Bon enfant, aucun comité d'initiative, aucun plan, aucune organisation. Combien y a-t-il de médecins, d'infirmières? Je le répète chaque année, combien de lits d'hôpital à Sodo? Combien de tonnes de médicaments? Premier secours? Rien de tout cela. Pas un hôpital, pas un médecin, pas une infirmière. Et malgré tout, aucune catastrophe n'est signalée, en dehors de quelques accidents. Les hommes de Sodo disent « accident rituel ». C'est habitude, Sodo. Sodo, ville miracle. Une femme, prise de loi, dévale, hagard, en courant, hurlant, les pentes du morne, dans un crissement affolé de cailloux, dégringolant, juché sur son épaule un bébé de 2 mois à peine, terrorisé, roulant des yeux révulsés, cherchant désespérément de l'aide. Rien. Rien ne vient. Rien ne parvient plus tard d'un accident survenu à ce bébé de 2 mois. Sodo, ville miracle, miracle de Sodo verdoyant dans l'Artibonite, oasis de verdure dans un pays écorché par l'érosion, dans ce pays où l'on appelle de tout cœur un Zaka protecteur. Le 16 juillet, fête de la Vierge à Sodo, leçon d'haïtianité, leçon de profonde misère physique, matérielle, morale et spirituelle. On rencontre à Sodo, en ce mois de juillet, la plus forte concentration de manchots, de borgnes, de bègues, d'éclopés, pustuleux, diminués, boiteux, cul-de-jac. La plus forte concentration qu'Haïti ait jamais pu réunir dans un seul lieu. C'est un autre des miracles de Sodo, que la contagion n'ait pas encore fait plus de ravages, mais le sentiment de misère physique qui se dégage de ce spectacle est insoutenable au goût délicat. Cette misère est sur le parvis de l'église, où les grappes de mendiants ont une allure presque surréelle. On se croirait dans quelques cours des miracles, ou mieux, explorant quelques rêves fous, quelques montées au ciel de Louis Buñuel. Laideur physique, gêne du regard humain, on se sent convoité, dépecé, dévêtu, mis en pièces à chaque seconde. Brusquement dans cette foule, un remous se dessine vers un point d'attention particulière. Une femme, en costume bleu de pénitente, la taille sainte de la cordelière rituelle, jette à profusion de la menue monnaie. Les seins mendiants s'agglutinent alors à sa jupe de bonne coupe, à ses jambes noires fraîchement épilées, s'accroche des doigts crochus. Elle détourne le regard. Assurée et ferme, pour chercher dans la mêlée cette voix richement vêtus, ses trois fils richement vêtus, tandis que pour elle, dégagent en la place deux gardes, deux miliciens, de son escorte, écartent les gêneurs à coups de rigoise. Qui est cette mystérieuse, cette puissante pénitente? Quelques filles de riches paysans d'alentour? Quelques femmes de spéculateurs en denrées de la plaine? Membres d'une congrégation vaudou, au strict costume bleu brodé de zaka discret, costume strict et discret qui n'empêche cependant pas le chic? À l'église cette année, il n'y avait plus les nattes, il n'y avait plus les sacs de paille, il n'y avait plus les toiles collettes, tendues à même la dalle, dans le grouillement des femmes accroupies ou étendues, dans le frémissement des milliers de lumignons, des milliers de têtes gridapes, de bouts de chandelles, lorsque fument les prières catholiques. Cette année, l'église n'était pas auberge de pénitents. On l'avait nettoyée de tous ces dormeurs, de tous ces fatigués, de tous ces éclopés de la route, de tous les malades de misère. Sale, certes, elle l'était encore, cette église, mais seulement de la boue des chaussures et des sandales. Les quelques femmes en prière y étaient ça et là. Les quelques hommes porteurs de cierges pouvaient y circuler, faisant sonner les dalles, libres de tout matelas. Sans enjamber un corps, sans faire gémir un bébé, l'église a été nettoyée. Par un jeune curé, ai-je dit. Est-ce la raison de cette tiédeur constatée? L'Église a-t-elle pris sa distance d'avec la prière syncrétique? La ferveur sacrée des pénitents d'Erzuli, des pèlerins de Zaka refoulés du parvis, les hommes et les femmes se sont repliés vers la région des Palmes, appelée aussi Nant-Saint-Jean-Baptiste. La Vierge du Mont-Carmel ne fait plus bon ménage avec les dieux africains, comme on le constatait les années précédentes. Un jeune prêtre a mis bon ordre à ce syncrétisme. Mais dans les cœurs et les prières, dans les supplications et les invocations, le mariage n'est-il pas toujours vivant? Ce mariage de la Vierge et de Zaka, ce mariage du Major et d'Azakamédé.
Mais 80%
des pèlerins de Sodo ont à peine de quoi payer le voyage. Ils arrivent tassés dans les camions, comme la canne dans un wagon de la Asco. Ils débarquent et demandent au premier venu, les yeux fous, le corps blanc de poussière, ils demandent « Côté l'église, là ! Montrez-moi chimé l'église, là !» On les retrouvera à l'église, couchant à la belle étoile sur le parvis. Ils ont essayé encore cette année d'y pénétrer, pour y déposer leur paillasse et s'y étendre. Mais le curé ne veut pas. Oui, père, pas v'lé, mon domine dans l'église, là. Par centaines, on les retrouve sur ce parvis. Qui sur une natte, qui sur une paillasse, qui sur une guenille, couvert de terre, couvert de crachats. On les retrouve encore dans ce terrain vague, par centaines et centaines, sous le mapou sacré, vers les premières pentes. Sous le mapou sacré, vers les premières pentes de la vallée. Ils invoquent Saint Jean-Baptiste au pied de ce palmiste qui est comme celui où eut lieu la première apparition, d'où est née toute cette histoire légende. Ils arrivent aussi par des chemins de traverse, de la tombe, où n'en mémé, à Dodane, à cheval ou à pied, montant vers la ville bonheur, après un an d'attente et de souffrance. Qui sont-ils? Paysans pour la plupart, et leur demande à la Vierge ont une odeur de terre ingrate, de terre stérile ou de terre volée. leurs cris vers le ciel ont souvent les accents déchirants d'animaux sacrifiés. Ils ont dû vendre peut-être un bœuf, abattre des porcs, écorcher des cabris, des moutons, pour la nécessité du voyage, pour la nécessité des prières. Non, palmiste, où semble avoir été refoulé le peuple des servants de Tijan Grandbois, de Papazaka, de Loko Atissou ou d'Ogun le Terrible, un curieux phénomène s'est noté cette année au passage. La ferveur individuelle, constatée dans la foule sur le parvis de l'église, s'est muée en foi collective. Les groupes de pénitents se sont reformés dans les cours, sous les galeries, sous les arbres sacrés. Et c'est en groupe, collectivement, que librement, ils ont exhalé leur foi. Une vingtaine de membres d'une congrégation, autour du Hongan, de la Mambo, quelques Hongsikanzo, quelques fidèles, quelques curieux, venus de loin, de très loin, et voilà, reconstitué, le bagui que l'on a laissé là-bas, là-bas, pour venir à Villebonheur. Et la fête votive s'organise. L'on a oublié le tambour au village. Qu'importe, les mains battront en cœur. Et le cœur supplé au rythme percutant. Yo quitte bagi à loin, loin, mais yo pas billé loin, yo pas billé mystère, yo. Non, ni Papa Loco, ni Papa Zaka. Papa Zaka là, présent, il est venu lui aussi prier la Vierge, mais n'est-il pas de préférence venu puiser à la source de la fertilité? Papa Zaka, on le croise au détour d'un sentier sur la colline sacrée, de bleu vêtu, chapeauté de paille et la main tendue. Le cuit est déjà mis plein. On y décèle pois, riz, maïs, pièces de monnaie qui voisinent presque joyeusement. Il demande sa charité, mais il répond aussi avec ce serrement de dents et cette voix qui passe presque filtrée et cette voix qui recrée la vieille légende, la vieille histoire de ce dieu paysan, gouailleur, têtu, obstiné, secret, mystérieux, mais au fond, très fraternel. Autour de lui, c'est la gouaille, c'est l'ironie, c'est même l'irréligion, l'impiété, car on ne croit pas à ce Papa Zaka, l'on pense à tant d'autres choses. Le terrible Ogun, lubrique lui aussi, à 16 heures, intervient parfois sans rompre le rythme de la fête orgiaque. Il est vrai qu'à côté des suppliantes enjambeuses de feu et de braise, cherchant jupes retroussées sur un sexe stérile, le secret de la fertilité, il est vrai que ces femmes en flammes ont peut-être mis « Ogun Badagri » en appétit. Ogun terrible, Ogun lui aussi, regardant les filles, les lorgnant sur leurs jupes, dans ces flammes de l'enfer qui lèchent leurs cuisses, affolées, affilées, affûtées le vieil Ogun, lui que l'on chante avec ferveur, pour avoir qui une piécette, qui un enfant bientôt, Ogun le terrible. Deux sortes de gens viennent à Sodo. Les uns pour le plaisir, les autres pour la nécessité. Petit peuple des campagnes et des villes, que demandent-ils? Contre qui ou contre quoi en ont-ils? Des voisins malveillants, des créanciers malhonnêtes, des rivales jalouses, des maîtresses abusives, des abus du pouvoir légal ou illégal? Il est une règle à Sodo, plus rigoureuse qu'un article du Décalogue. Personne n'y doit venir demander le mal pour autrui. Sinon, c'est la mort au sortir des villes. Mais on y réclame l'allègement des souffrances, et c'est une immense clameur qui s'élève à chaque pas. Une immense clameur douloureuse, assourdissante. Le voyageur ému a lui aussi envie de hurler. Pitié, pitié, pitié pour ces pénitents. Pitié, pitié pour ces malheureux. Pitié, pitié pour cette misère. Pitié, pitié pour ce peuple de 50, 60 000 pèlerins. Un Haïtien sur 100 chaque année monte à Sodo. Un Haïtien sur 100 chaque année monte à Ville-Bonheur, à Ville-Mystère, à Ville-Misère.
Toujours combat avec la Vierge, parce que naïve, innocent devant la Vierge. Nous ne sommes pas coupables de mon péché la terre, mais la Vierge ne connaît pas de mon puissance pas, on ne suis pas coupable de vous. La Vierge joue avec un saint de vous. La Vierge joue avec un bâton de faire mal. La Vierge se vient me faire.
Chacun dans cette foule est isolé dans sa douleur, muré dans son expression. Ce mur invisible qui entoure chacun permet à chacun, sans risquer les oreilles indiscrètes, de raconter sa vie, de clamer à haute voix sa prière à la Vierge, aux Loiguinins, aux saints, aux anges, et de réclamer des miracles. Lamentation des 50 000 solitaires, des 50 000 possédés, nul pour tendre la main au chancellement mystique, nul pour aider le possédé, nul si ce n'est un parent. Et encore, l'isolement tragique de cette femme au visage poudré de blanc, le regard perdu, les yeux embués, deux sillons de larmes creusant le maquillage rituel de Dambala. Elle est seule dans la foule sur le parvis, priant la Vierge. Elle est seule face au ciel. Elle est seule avec sa peine, seule avec son cœur pinclé, son cœur tacheté de la verrette douleur. Seule, cette femme, seule en face des lois. Dans la vallée, l'Église catholique, ai-je dit, a laissé la place au culte des arbres magiques. Le mapou de l'Ambala coexiste avec le palmiste de Saint-Jean-Baptiste. Sous le feuillage humide, le charlatan est roi. Spectacle navrant et pittoresque de femmes se faisant râler bras, jambes, poitrine et bas-ventre par ces rebouteux plongeant à pleine main dans une cuvette aux eaux sales où grouillent les feuilles chance, la monnaie récupérée, les gourdes si vite gagnées. Une gourde, 55 centimes, pour guérir une femme stérile. Pendant 3 ou 4 jours, Ville-Bonheur est un spectacle de tous les instants, un immense happening sur fond de détresse grise, où jaillissent brusquement des cantiques hurlés sur un rythme yanvalou. Spectacle permanent des pénitents en robe décorée de vévets circulant en macorne, tendant leurs couilles aux passants. Groupe blanc de robe siam des mendiants rituels. Ils viennent de tous les honforts, de tous les autres lieux mystères du pays, expier les fautes commises envers les lois. Il faut mendier pour se racheter. Il faut aussi faire l'aumône aux vrais et faux mendiants pour apaiser le courroux du ciel. Curieux tableau d'une mendicité rituelle, se greffant sur cette misère collective dont vit le bonheur et le lieu privilégié. C'est le niveau nécessité de la fête. Il y a aussi le plaisir, car viennent aussi les voyeurs, les boissonniers, les grogman, les libertins, les caravacheurs, les touristes. On les voit circuler dans la poussière des rues, hanter les salles de jeu, rôder autour des roulettes, se faire plumer par les vendeurs de rêves et d'illusions, ou bambocher sur la grande tente qui déverse le flonflon assourdissant d'une musique électrisée, tandis que ronronne un delco de fortune sous les arbres, autour des tables chargées de bouteilles, renversées souvent par les ivrognes, les blagues fusent, le rire grossier se mêle à la rumeur liturgique, le rire profane ne détonne pas sur la ferveur sacrée des nécessiteux. Sodo, au-delà de toute profanation.
J'ai mon camion, papa, mendier au Budapest Shop, en 1974. J'ai mon camion en Chiyan et passé même d'après fêter. D'après problème, d'après choc, on va venir là. C'est pour te courir, c'est pour te venir là. Mais bon Dieu, je suis en train.
Quelle mine d'informations pour l'ethnologue que cette célébration! Richesse de documentation sur les rites, croyances, mythes et traditions populaires. Mais comment conserver le regard froid de l'observateur devant cette profonde aliénation? Comment regarder sans participer? Cette règle-là est bien l'expression d'une détresse humaine insoutenable. Comment regarder encore cela comme du folklore? Cette laideur, cette grâce, cette profonde solitude renvoient à une profonde servitude de l'homme haïtien, pris dans le filet jaloux de ses craintes mystiques, tissé sur une pauvreté de démunis à la limite du vivable. Et ça et là, comme des îlots de ferveur collective, les hommes et les femmes de ces confréries venues du fin fond d'Haïti gardent encore l'amour des dieux, l'amour du sacré africain. Dans les rues, sur le parvis, au pied des arbres reposoirs, le cœur de notre peuple, son cœur pintelé comme celui d'Herzulie rouge, palpite au rythme de son désespoir. Cette laideur, cette crasse, qui ont dégoûté tant de délicats, qu'ils amalgament misère et folklore, aliénation et culture nationale. Et ils vont partout prêcher l'évangile du four à gaz, de la langue française, du tracteur, de l'électronique, évangile seul capable de mettre fin à cette misère. Tant pis pour les traditions, tant pis pour la culture, si l'enracinement de notre peuple a toujours la beauté formelle d'un paradis végétal de Philippe Auguste. Quel mérite aurions-nous à défendre cette culture, à vouloir son enrichissement et son illustration? L'on a beau jeu d'opposer haïtianité et modernité, menaçant de dissoudre les misères de l'une dans les promesses de mieux-être de l'autre. Pourquoi le tracteur devrait-il faire taire le chant fraternel du Kumbit? Il est facile, d'autre part, aux amateurs de bons sauvages, venus de l'Occident chrétien transhistorisé, de ne voir chez nous que les naïfs aux couleurs primaires ou les recettes à la saveur d'antan. Rien n'est toute beauté chez nous. Et cette expressivité si fortement haïtienne, qui jaillit de chaque gouttelette de la chute d'eau sacrée, de chaque cri de pèlerin, qui se tord de douleur dans les cordelières liturgiques, est, nous le savons, expressivité de l'aliéné. Pour mettre fin à l'aliénation, nous avons besoin de la force expressive, inentamée, du peuple tout entier, de chaque homme du peuple dans son entier. Les changements de conditions matérielles ne peuvent s'opérer valablement que si le natif natal garde son âme, conserve son vrai visage, pour jouir enfin de tout l'héritage. La terre et les eaux, le sol et les plantes, le sous-sol, ses fruits, l'eau et le soleil, les hommes et les dieux, la vie et le rêve, la réalité et le sommeil.
Papa,
Sodo, ville bonheur, Sodo, ville mystère, Sodo, ville misère, Sodo, ville d'espoir.
Vos futurs lecteurs et aussi à vos futurs élèves, parce que vous êtes un professeur de géographie, les ingrédients de ce livre. Comment procédez-vous? Quels sont vos éléments de recherche, d'enquête? Enfin, tout cela constitue un sujet extrêmement intéressant à analyser.
Bon, et...